7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour une presque heure d'échange entre nous, entre voisins, quoi. Notre sujet du jour est un phénomène contemporain que vous avez forcément croisé. Dans votre voisinage, dans votre famille, elles sont partout. Peut-être même en êtes-vous une. Produit hybride, d'éléments parfois opposés, ce besoin de se nommer dit tout d'elle. Autodétermination, précision, politique aussi, pourquoi pas. Et tout ce que chacune veut bien y ajouter. Nous allons parler aujourd'hui des Afropéennes. Pourquoi les Afropéennes ne et pas les Afropéens, me demanderez-vous les voisins? Eh bien, je vous répondrai d'abord pourquoi pas, puis plus sérieusement que le mélange entre genre féminin et des identités multiples me paraissait intéressant à observer. Les femmes ne sont-elles pas l'origine du monde? Alors, pour comprendre ce que produit cette origine, interrogeons-nous et intéressons-nous à ce qu'elles sont. Et je ne suis pas la seule, puisque l'écrivain d'origine camerounaise Léonora Miano, prix Femina 2013 s'il vous plaît, a publié en 2010 le roman fondateur de cette conscience en France, Blues pour Élise, roman construit par les destins de quatre femmes européennes d'ascendance africaine. Et ça n'est pas tout. Les Bigger Than Life, surnom que s'est donné la bande de copines créée par Léonora Miano, ont été mises en scène avec un succès tant critique que public par la metteur en scène franco-guinéo-ivoirienne Eva Doumbia. Le spectacle, baptisé Afropéenne au pluriel, a eu lieu les 13 et 14 février dernier au Carreau du Temple, complexe culturel du 3e arrondissement de Paris. Et puis deux autres représentations sont prévues samedi et dimanche prochain, les 21 et 22 février. Pour nous familiariser avec cette identité encore en construction, semble-t-il, une journaliste, Charlotte Ouaragomis, bonjour.
Bonjour.
Une blogueuse, Mrs. Roots, bonjour.
Bonjour.
Une dramaturge et metteur en scène, Eva Doumbia, la Eva Doumbia d'Afropéenne, bonjour.
Bonjour.
Et l'historienne et politologue Françoise Vergès, bonjour. Bonjour. Merci à vous quatre d'être là. Et puis il y a aussi vous, les voisins. Que pensez-vous de cette identité? Réalité complexe ou lubie de femmes noires contaminées par un intellectualisme occidental? 33 1 84 22 71 71. La page Facebook est aussi à votre disposition, elle s'appelle 7 milliards de voisins et vous avez d'ailleurs commencé à vous exprimer. Iba Anouakchott nous dit « Ces femmes, leur rôle, c'est œuvrer pour l'émancipation des femmes en Afrique. Elles peuvent occuper les postes qui contribuent à la liberté de la femme en Afrique. C'est important aussi qu'elles viennent et travailler dans des écoles pour permettre à des jeunes filles de s'instruire. C'est ça et ici leur place. » Donc Iba veut les Afropéennes en Afrique. Quant à Gillian, lui, nous dit « L'Europe leur a ouvert les portes et elles sont entrées et sont devenues membres de la maison. Il y a de quoi perdre un peu de leur africanité. Ne leur en tenons pas rigueur si de retour au pays, elles ne sont plus des femmes au foyer à l'africaine. On se plaint qu'elles ne prennent pas suffisamment soin de nous qui sommes restés au pays, qu'elles nous ont oubliés au profit de leurs nouveaux amis, de leur nouvelle vie. Mais elles se doivent d'être aussi reconnaissantes à leur pays d'accueil qui leur a donné la possibilité de fréquenter les grandes universités. Et pour reprendre Corneille, quand on vient de loin et que la vie nous sourit, on redonne à l'humain pareil ici comme au pays. Rappelons-nous que c'est grâce à elles qu'on peut frimer avec un smartphone ou même une tablette à Dakar, Libreville, Douala. C'est grâce à elles que nos petites sœurs traînent avec des sacs griffés Gucci, Louis Vuitton, etc. Je ne sais pas si nous devons nous en réjouir, Gillian. En tout cas, pour le moment, vous les regardez, enfin certains parmi vous, les voisins, regardent ces Afropéennes d'un œil plutôt positif.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Françoise Vergès, commençons par le commencement. Quand apparaît le mot afropéenne, l'expression afropéenne?
Il apparaît en Angleterre, la question étant, comme vous le disiez, de nommer quelque chose, une présence, et le fait qu'il y a toujours eu d'ailleurs des migrations africaines. Toujours, elles ne sont pas nouvelles.
Elles ne datent pas de 2000.
Elles sont là depuis le 16e siècle, il y a des Africains en Europe. Mais c'est une condition nouvelle en cela que les choses ont changé et qu'il faut donc nommer cette présence.
Alors
donc,
qu'est-ce qui a changé?
Le fait qu'il y a quand même déjà beaucoup plus d'Africains ou de personnes d'origine africaine, qu'il faut que ces personnes ne sont pas nécessairement, qu'elles prennent place complètement dans ces pays européens, pas nécessairement dans une idée de retour, qu'elles affirment leur présence là, en Europe ou ailleurs, et que ça signifie que l'Europe va changer et a changé déjà, et il faut donc comprendre ce phénomène. Donc le nommer est toujours extrêmement important de nommer, et puis ça arrive effectivement en France ensuite avec les Nubiennes.
Eva Doumbia, l'un des voisins qui s'appelle Laziz et qui vit à Lyon demande via Facebook pourquoi pas euro-africaine plutôt qu'afro-péenne.
Parce que c'est plus joli.
C'est tout, vraiment?
Non, en fait, moi, je trouve que le terme est afro-péen est très parlant, et il est plus joli, et puis en plus, il fait un peu référence au terme afro-américain, en vérité. Donc, en fait, par rapport à des choses que vous avez lues tout à l'heure, on n'a pas été accueillis par la France, on est français. On est des Françaises.
Donc vous faites référence aux remarques, aux réflexions des voisins via Facebook.
On n'est pas accueillis, on est des Françaises, donc on est avant tout des Européennes avec une ascendance africaine ou avec des ascendances africaines et avec un lien avec le continent. C'est ça qui est très compliqué, c'est que quand on est afro-péen, à la différence des Noirs américains, on a un lien la plupart du temps avec la terre des origines et une conscience aiguë de ce qui peut se passer. Donc j'entends très bien cette remarque de la première personne qui a parlé, qui dit il faut qu'elle vienne chez nous
enseigner c'est Iba Nouakchott qui attend des afro-péennes.
Mais ce n'est pas très 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 facile. Moi je le sais, c'est extrêmement difficile.
Vous vivez votre afro-péennité dans votre façon de travailler.
Alors, je suis d'origine ivoirienne et malienne, non pas guinéenne.
Ivoirienne et malienne, c'est pas grave. Autant pour moi.
C'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile parce qu'en plus, il faut aussi faire attention de ne pas se comporter en colon.
Précisons, on est français. Précisons, si vous le voulez bien, Eva Doumbia, que vous avez une compagnie à Marseille, une compagnie en Afrique.
En fait, c'est une seule compagnie.
Une compagnie
maintenant,
bicéphale.
Voilà, c'est une compagnie qui est internationale en vérité, et que je travaille à Marseille, bon, à Paris aussi, et je travaille aussi en Côte d'Ivoire et au Mali. Et au Mali, j'enseigne au conservatoire. En fait, j'ai enseigné pendant 2 ans avec une classe que j'ai suivie. Et c'est vrai que la grande difficulté, c'est de faire attention à ne pas faire du colonialisme culturel aussi, parce que à cette place-là, je suis française. C'est ça qui est compliqué.
Mrs. Roots, j'ai l'impression que vous voyez acquiescer, vous reconnaissez dans cette identité avant tout française, avec un lien plus ou moins distendu au continent.
Oui, tout à fait, dans la mesure où, quand on sait qu'on est française, il y a bien sûr donc ces liens extérieurs, on les explore. Moi-même, bon, j'ai des origines martiniquaises et congolaises. J'ai pu vivre là-bas pendant plusieurs
là-bas,
mois.
Là-bas, c'est où?
Donc c'est en Martinique.
ça fait beaucoup de là-bas. Parce qu'il va falloir être précis aujourd'hui.
Effectivement, ça fait beaucoup de là-bas, mais même si j'ai des origines, je n'aurai jamais la prétention de dire que je connais la culture congolaise, que
sur
ce soit ses auteurs, que ce soit ses plats, que ce soit son histoire même. Je m'y intéresse, mais je ne peux pas faire d'un intérêt que mon père m'a transmis, ma nationalité.
Ou votre identité.
Et mon identité unique.
Unique. Charlotte Ouaragomis, on ne vous a pas entendu sur cette question. Est-ce que vous êtes afropéenne ou pas?
Alors, comme le disait Eva tout à l'heure, ce terme d'afropéenne me plaît beaucoup. Parce que on se retrouve dans une espèce de crise identitaire où on se retrouve en France. On est née en France, donc on est française. Et souvent, c'est notre couleur qui parle avant nous. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un aller demander à un Français « d'où tu viens ?» Alors que nous, la première chose qu'on nous demande, c'est « mais d'où viens-tu ?»
Mais vous êtes française
et
aussi.
La première chose que je dis, c'est « bah, je suis normande ». Vous avez peut-être du mal à y croire, mais je suis normande. Et de l'autre côté, il y a cette espèce de douleur où quand on rentre dans notre pays d'origine, où on retourne vers nos racines, et là, on a cette espèce d'opposition avec les gens qui nous disent « mais toi, tu n'es pas sénégalaise, quoi !» Et on se dit « mais en fait, où suis-je ? Où suis-je placée ? Qui suis-je vraiment ?» Et à la différence des Afro-Américains, nous avons cette richesse de pouvoir connaître nos origines. Et je pense que justement, c'est pas un blocage du tout. On est afropéenne, africaine d'origine et européenne de naissance.
Tout de suite, c'est la musique dans cette milliard de voisins de deux jeunes femmes qui devraient vous plaire, mesdames, autour de la table. Elles sont sœurs, elles sont somaliennes. Le groupe s'appelle Pharaoh, ça s'appelle Rule the World. You gon' make me go start a riot. Rum, 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 come get you some. Rum, time to Les sœurs Farrow dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les voisins, nous parlons. Nous allons à la rencontre des Afropéennes. Et il y en a quelques-unes autour de cette table. Deux Normandes, une Orléanaise et une Réunionnaise qui viennent nous parler de ce qu'est cette identité composite avec laquelle, dans laquelle elles sont nées, avec laquelle elles ont grandi et puis qui est devenue leur mode d'expression. Eva Doumbia, pour vous, les Afropéennes sont carrément des personnages de théâtre. Vous avez adapté Blues pour Élise de Léonora Miano sur scène et la pièce a été jouée, je le disais en introduction, du 13 au 15 février dernier au Carreau du Temple. C'est dans le 3e arrondissement de Paris, avec un succès donc à la fois critique et populaire. Dans la salle, on riait, on tapait des mains, on s'exclamait. Comme à la maison, qu'ont-elles de si théâtral, ces Afropéennes, pour que vous ayez envie de les mettre comme ça sous les spotlights?
Bah, en fait, le livre a été conçu par Léonora. Il est très différent du reste de son œuvre, en fait. Elle pensait, quand elle l'a écrit, ce livre, elle espérait que quelqu'un puisse en faire une série télévisée et que ça soit diffusé, en fait, et qu'il y ait des personnages auxquels pouvait s'identifier.
Et le roman est construit comme ça.
Le roman est construit comme ça.
Par épisode.
Donc moi, j'ai suivi la trame du roman, en fait. C'est-à-dire que je suis rentrée dans le sitcom. J'ai assumé le sitcom, ce qui est assez compliqué parce que par rapport aux professionnels, tout d'un coup, ils se disent qu'est-ce que c'est? Elle fait du sitcom de théâtre tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis alors, comme ils n'ont pas lu le livre de Léonora, donc du coup, ils savent pas qu'en fait, c'est fait exprès et que c'est aussi une manière de raconter.
Alors pour ceux qui n'ont pas lu, pourquoi sont-elles si théâtrales? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, ces Afropéennes?
Ce sont des personnages, alors elles sont très différentes. Il y a même quelque chose de l'ordre du stéréotype qui s'invente, en fait. Hein. D'ailleurs, je voudrais juste, parce que ça me traverse l'esprit, je fais une toute petite digression. Ça joue encore ce week-end. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est joué le week-end passé, mais ça joue encore.
Et ça continue samedi et dimanche.
Ça continue samedi et dimanche, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et celles qui n'ont pas vu. Pour moi, c'était important de montrer ces femmes qui sont des femmes fortes, en fait, hein, des femmes fortes, mais avec une grande sensibilité, avec beaucoup de douleur à l'intérieur, et que cette douleur, en fait, elle leur appartient pas forcément. Ce qui est intéressant, en fait, depuis que je fréquente d'autres Afropéennes, puisque la France est faite de manière à ce qu'on soit pas élevé en communauté. Moi, j'ai pas grandi avec beaucoup de Noirs autour de moi, et puis tu sais comment le Havre est, voilà. Donc.
Eva s'adresse à Charlotte Gomis, l'autre Normande du plateau.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout le temps l'impression qu'on a vécu quelque chose de manière individuelle. Et en discutant avec d'autres, on s'aperçoit que ce qu'on a vécu de manière individuelle, en fait, d'autres l'ont vécu. Et que donc, cette chose-là, c'est des petits traumatismes du quotidien, des souvenirs négatifs de l'enfance, en fait, sont des choses qui sont liées à la structure du pays. Et que je crois que nous, en fait, pour moi, c'était important de faire cette adaptation et de travailler aussi sur les autres textes qui parlent de ça de Léonora, qui sont les écrits pour la parole, parce qu'il faut absolument transformer l'imaginaire des Français par rapport à ça, parce que ça ne peut passer que par l'imaginaire.
Et vous dites des Français et pas seulement des Afropéens.
Non, cette histoire nous concerne tous, on est tous Français. En fait, tout à l'heure, même Charlotte disait que nous, on nous demande d'où on vient et qu'on ne le demande pas à un Français. Même nous, en fait, quand on pense blanc, on dit Français. Alors qu'en fait, non, un autre Français, un Français non noir, il faudrait dire. Exactement. Parce qu'en fait, dans le langage, on est... on a eu tellement de difficultés à se définir, à dire ce qu'on était. Moi, je suis métisse. Alors, c'était tu viens d'où? Alors, je disais, je suis normande aussi. Mais l'autre. Et c'est toujours très compliqué, en fait. Et d'avoir un mot qui permet d'englober tout, c'est très important.
Charlotte Ouaragomis, qui peut aider des jeunes Afropéens, des enfants Afropéens à grandir et à se construire bien, ce sont éventuellement des modèles. Est-ce que vous voyez des personnalités Afropéennes de référence que vous pourriez donner ou que vous pourriez nous indiquer comme étant intéressante à suivre?
Alors, pour ma part, je partirais plus sur le fait de se regarder soi-même.
Regardez-vous vous-même devant nous.
Pour moi, on n'est pas tous Afropéens, malheureusement. Et quand vous nous lisiez tout à l'heure l'un des commentaires d'un de nos auditeurs, il y a un souci où, pour moi, nous sommes Afropéennes autour de cette table. Et il parlait des femmes africaines, père de son africanité. Pourquoi est-ce que notre africanité se définirait dans le fait de pouvoir bien s'occuper de nos hommes, faire à manger, savoir faire le ménage? Donc ça ce serait notre africanité.
Nous y voilà.
Et mon problème à moi, c'est que notre africanité, elle nous vient des valeurs que nos parents nous ont transmises.
Mais ça peut être ça aussi.
Exactement.
Mais ça peut être aussi bien s'occuper d'un homme.
Ce qui me fait mal, en fait, c'est que je me sens Afropéenne, mais de l'autre côté, je me sens sentirais pas réellement être une femme de valeur si je ne savais pas cuisiner, si je ne savais pas faire le ménage. Parce que ce sont des valeurs qui étaient importantes pour ma mère. Parce que pour ma mère, être une femme, c'est savoir s'occuper de son foyer, de ses enfants et de son homme. Mais parallèlement à ça, elle m'a transmis la force et la volonté de pouvoir réussir. Elle m'a toujours dit, il faut toujours que t'en fasses plus que les autres. Il faut que tu réussisses pour être fière et il faut pas que tu sois comme moi. Et il y a cette espèce de volonté de faire mieux
de
que nos parents.
Françoise Hergès, c'est ça, être afro-péenne, c'est une montagne à gravir finalement? Ça peut être fatigant, voire décourageant.
Mais je repensais justement ce qui est intéressant dans afro-péenne, c'est de dire Europe et non pas France. Et donc de s'inscrire dans un espace plus large. Et déjà, je trouve ça c'est intéressant parce que ça dénationalise, on pourrait dire, l'identité. Vous voyez, l'identité n'est pas liée à une nationalité, elle est liée à un espace,
mais est-ce qu'au contraire, ça ne dilue pas le propos?
Non, ça ne dilue pas le propos. Alors, il y a eu des critiques en opposant panafricain à afropéenne. Restons panafricains, c'est l'Afrique qui compte, c'est là qu'il faut vraiment se faire. Je pense que malgré tout, il y a quand même une réalité aujourd'hui d'une diaspora, pour l'appeler ainsi, qui ne peut pas être ignoré. Et ce terme, de toute façon, un terme est toujours travaillé, un terme lance toujours des débats.
Il faut s'en emparer.
Il faut s'en emparer parce qu'il ouvre des portes, il ouvre un champ. Donc en cela, je pense que c'est intéressant. Et ce que disait Charlotte, c'est vraiment, effectivement, la définition de ce que ça peut être une femme africaine qui serait celle qui s'occupe du foyer et que afropéenne, ce serait aussi d'autres propositions d'être d'une féminité qui serait à la fois, qui mixerait plusieurs choses, je pense que c'est aussi intéressant.
Les Afropéens devraient mettre un terme à leur tergiversation identitaire, cesser d'attendre d'être nommés et légitimés par la majorité. Ils devraient s'inventer, s'imposer, se dire. Parole d'une Bigger Than Life, l'une des héroïnes de Blues pour Élise, roman emblématique des Afropéennes qui sont notre sujet de discussion, les voisins. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous trouvez formidable cette manière de se définir? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous agace? Appelez, parlons-en. 33 1 84 22 71 71. Après le flash info, nous prendrons quelques minutes pour parler du masculin de l'afropéenne, l'afropéen, mais est-il son masculin d'ailleurs? À tout à l'heure.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards de voisins où nous nous intéressons à un groupe de voisines bien spécifiques, les afropéennes. Africaines, mais pas que, européennes et plus loin. Elles ont investi ce qu'une chercheuse a pu appeler un tiers espace entre Afrique, Amérique et Europe. Le professeur et écrivain Paul Gilroy a pu appeler cela l'Atlantique noir, qui est aussi le titre d'un ouvrage qui a marqué les consciences. Atlantique noir, modernité et double conscience. Alors, qui sont ces jeunes femmes riches d'une double appartenance culturelle? Et cette double appartenance culturelle ouvre-t-elle l'horizon affectif de ces femmes au caractère bien trempé? Car il en faut pour se définir soi-même. Nous sommes toujours avec nos invités Françoise Vergès, Charlotte Ouara-Gomis, Mrs. Roots et Eva Doumbia. Et vous, les voisins, que pensez-vous de ces afropéennes? Révoltées ou affirmatives? Naissance identitaire ou crispation passagère? Signe des temps ou épiphénomène? Donnez-nous votre avis. 33 1 84 22 71 71. Et puis, dire qu'on est afropéenne est bien beau, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On en parle jusqu'à la fin de l'émission. Eva Doumbia, dans votre pièce afropéenne, inspirée, adaptée de Blues pour Élise, le roman de Leonora Miano, les hommes sont les grands absents sur scène. Les femmes sont très très présentes, et pourtant ils sont le sujet central.
Il y a un homme sur scène.
Oui, enfin, pour quatre femmes.
Il y a un homme sur scène.
C'est pas exactement la parité.
En fait, il est la figure du père, il a la figure du frère, il est la figure de l'amant. En fait, il est danseur. Donc moi, je voulais aussi que ça soit pas quelqu'un qui prenne la parole. Et puis dans le livre, de toute manière, les hommes sont. On en parle beaucoup aussi dans le livre de Léonora, mais ils sont aussi. Ils sont pas personnages principaux. Je pense qu'après effectivement après avoir parlé de ce que nous sommes, c'est-à-dire Léonora, moi et puis les comédiennes, on va pouvoir parler des garçons. Pour qui, à mon avis, c'est aussi compliqué, mais à l'inverse. Alors moi, je dis souvent, en fait, les femmes afropéennes sont toujours mises en avant et plus fortes parce qu'en premier lieu, dans leur famille, elles ont dû s'opposer à leur père. Et d'ailleurs, c'est la fin du spectacle, hein, sur les pères. Elles ont dû s'opposer à leur père. Et donc, en fait, elles se sont constituées, moi, je vais parler de mon expérience. Oui. C'est-à-dire que je suis française. J'ai grandi avec un père, donc, malingué. Donc, avec une culture, même si c'est quelqu'un qui s'est adapté, comme on dit, mais quand même qui avait des valeurs, machistes, hein. Et quand j'allais chez mes copines blanches, je voyais bien que, elle faisait pas la vaisselle à 10 ans, qu'on leur parlait bien, on leur disait pas, viens ici, et tout ça, que c'était pas tout à fait pareil. Donc, en fait, je me suis opposée à mon père en regard de ce qui se passait à l'extérieur. Par contre, en revanche, c'était beaucoup plus simple pour moi à l'extérieur que pour mon frère. Et ça, c'est très important de dire que la société nous accepte mieux, nous, les filles, que les garçons. Et on est dans une société qui est extrêmement patriarcale, la société française, là pour le coup, elle est patriarcale. Et l'homme noir dans cette société est infériorisé. Donc quand au sein de la famille, il se venge sur ses filles, et puis il met une pression énorme sur les garçons.
Les voisins apprécieront.
Et il met une pression énorme sur...
Si vous ne vous reconnaissez pas dans les propos d'Eva Doumbia, les voisins, appelez. Si vous ne vous vengez pas sur vos filles, appelez. Et si vous vous vengez sur vos filles, appelez aussi d'ailleurs.
Mais se venger sur ses filles, se venger sur ses filles, c'est pas forcément
les maltraiter. Ah non, vous l'avez dit, maintenant, il faut assumer,
Eva Doumbia. En fait, ils sont infériorisés. Donc avec les... De toute façon, je le dis, avec Léonora, c'est écrit, hein, dans le texte, ça se termine comme ça. C'est qu'on a une espèce de grande fragilité intime, intérieure, affective aussi, parce que c'est toujours très compliqué avec le père et avec le frère. On se sent coupable aussi de pouvoir mieux réussir que nos frères. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, je me suis dit, l'étape d'après, je vais parler des garçons.
Françoise Vergès.
Je veux dire, c'est aussi un héritage, si je peux me permettre, du monde colonial, c'est-à-dire de ce que la grande théoricienne Gayatri Spivak disait, sauver les femmes de couleur des hommes de couleur. Et que, effectivement, la société blanche vise les femmes. À la fois, on le sait pourtant, les femmes esclaves étaient particulièrement aussi torturées, blessées. Mais dans le discours, on va sortir les femmes. La civilisation blanche européenne veut se montrer comme étant, comme on le sait, l'égalité homme-femme, etc., etc. Donc, elle joue sur tous ces tableaux, mm-hmm, en disant, bon, les femmes réussissent mieux, ce qui est aussi un peu, ce qui est aussi vrai.
C'est une
donc,
réalité.
On va, et puis, alors, une femme noire ou une femme donc non blanche, elle sera plus gentille, elle sera plus aimable. Le garçon va être comme ci, comme ça.
Puis on la sort de la barbarie.
Et on vise les garçons. Mm-hmm. On le sait bien que le contrôle au faciès vise les garçons. Vise d'abord les garçons.
8 fois plus les jeunes hommes arabes et 6 fois plus les jeunes noirs.
Voilà. Donc, il y a le corps masculin est une cible dans la société. Alors, le corps féminin non blanc est à la fois sexualisé, désiré, fantasmé et aussi, quand même, discriminé. Donc, on doit tenir compte de tout ça et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire la question des pères, des frères, des fils. De ces hommes qui sont à la fois donc fragilisés et de notre position de ne pas accepter le patriarcat, de ne pas accepter le sexisme et le machisme, mais aussi de connaître, d'avoir effectivement en tête cette situation, parce que ce sont nos frères, nos pères, nos fils, et que nous devons, je veux dire, que aussi être avec eux dans le combat. Dans le combat contre le racisme et les discriminations.
Justement, Mrs. Roots, alors Françoise Vergès posait les propos très clairs de cette théoricienne. Moi, j'ai envie d'y répondre ce que disait Nelson Mandela. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Alors, Mrs. Roots, qu'est-ce qu'il faut, quelle attitude faut-il avoir avec ce qui vient d'être posé?
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que finalement, on appartient toutes, en tout cas en tant que femme noire, à un imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'imaginaire, comme elle le disait, de la femme noire sexualisée, etc. Mais les hommes noirs ont aussi un imaginaire de la femme noire avec beaucoup d'exigences. Et ça, c'est un sujet.
Et cette complexité-là des rapports entre les hommes et les femmes,
exactement,
noires est très bien rendue dans cette pièce.
Exactement.
Je vous propose, mesdames, et puis les voisins et les voisines, d'aller à Libreville. Nous sommes avec un voisin librevillois, il s'appelle Jean. Bonjour Jean.
Bonjour Anastasie, bonjour à toutes et à tous.
Soyez le bienvenu Jean. Alors vous avez, et c'est le moins qu'on puisse dire, un regard un peu critique sur le concept d'afropéanité.
Oui, totalement critique.
Ah.
J'avoue que c'est un concept qui me paraît dangereux.
Carrément, dangereux.
C'est un concept qui me paraît erroné ensuite.
Erroné, très bien.
Parce que finalement, et en dernière analyse, on est de quelque part. On n'est pas afro-européen. L'Europe est un espace en construction qui se cherche et qui manque de repères encore. Donc c'est une tentative désespérée et sans espoir de se diluer dans quelque chose qui n'existe même pas de nos jours, au moment où nous parlons, même si nous le souhaitons. Moi, je suis né à Toulouse,
oui.
d'un père noir et d'une mère blanche.
D'accord.
Je suis toulousain. Je suis biologiquement blanc, culturellement blanc, psychologiquement, intellectuellement, épistémologiquement blanc. Voilà. Ça, c'est fondamental. Après, je vois pas très bien où irait une définition identitaire qui référerait à l'Europe.
Alors, pardon Jean, vous avez dit que votre père est noir, d'où est-il ?
De la Côte d'Ivoire.
D'accord. Père ivoirien, mère...
Toulousaine.
Mère toulousaine. D'accord. Alors, écoutez, je vous propose qu'on laisse ces dames autour de la table vous répondre. Françoise Vergès, dangerosité du concept, vacuité du concept aussi. Qu'est-ce que vous répondez ?
Je veux dire, le concept, il est proposé.
Mais Jean le trouve dangereux parce qu'il trouve que c'est une dilution.
Une dilution de quoi ? Je veux dire, l'Europe, je pense, elle existe, contrairement, je suis désolée, elle existe comme espace politique, espace du droit, on le voit bien, il suffit d'arriver à une frontière et de ne pas être européen ou d'être d'une certaine couleur ou d'une certaine religion pour que l'Europe se fasse
vous
sentir.
Vous saute aux yeux.
Vous saute aux yeux. Il y a des lois, il y a toute une série de choses, il y a des cultures et il y a une présence africaine en Europe très longue, dont il faut aussi, je veux dire, se réapproprier cette histoire. Je ne vois pas en quoi c'est dilué. Je veux dire, nous sommes là dans un espace qui s'appelle l'Europe, qui est un espace de droit, qui est un espace philosophique, imaginaire, et dans lequel nous avons notre place, et dans lequel nous pouvons dire quelque chose. Qu'est-ce qui se dilue? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se diluerait, d'une part. D'autre part, je pense qu'il y a, il y a des solidarités à construire, avec à la fois en Europe même d'autres groupes, d'autres communautés qui sont racialisées, ethnicisées, discriminées. Il y a toute une créativité.
Et c'est peut-être justement cette agglomération d'exclus que Jean voit comme tentative. Il a eu des mots très forts, il a parlé de tentative désespérée.
Mais ce n'est pas désespéré. En quoi ce serait désespéré? De toute façon, ces solidarités, cette créativité, toutes ces créativités qui se voient dans l'art, dans la littérature, dans tout ça, se construisent aussi de toute façon inévitablement en lien avec d'autres formes de créativité dans d'autres continents. Le continent africain, mais aussi d'autres continents. On peut penser aux Amériques, aux Caraïbes, à l'Asie. Nous sommes, je pense que l'identité afro-européenne, comme je la comprends, est une identité en relation avec d'autres et non pas surtout pas fermé.
Non, mais surtout pas dans l'exclusion. Donc, Charlotte Ouara-Gomis et puis Mrs. Roots.
Jean, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, il ne faut surtout pas oublier que nous sommes aux prémices de l'Europe. Les États-Unis d'Amérique, il ne faut pas oublier que c'était d'anciens colons anglais. Et aujourd'hui, ils ont une unité et une volonté de... Comment dire ? Les Américains se sentent Américains. On parle des États-Unis d'Amérique. Et je pense que l'Europe, aujourd'hui, a une volonté d'unité. Et le fait que nos origines soient africaines fait partie... nous sommes en train d'écrire l'histoire de l'Europe. Et il ne faut pas oublier d'où nous venons, mais il ne faut pas oublier non plus où nous sommes.
Et où
nous voulons aller. Donc on parle d'afropéanité, mais il y a aussi d'autres origines. On parle de couleurs, de cultures, de traditions. Et en essayant de mixer tout ça ensemble, c'est comme ça que l'on créera l'Europe de demain. Donc pour moi, ce n'est pas du tout dangereux. Au contraire, c'est un bagage pour l'avenir et c'est une richesse pour nous.
Mrs. Roots.
Non, mais je reprendrai surtout le terme que vous avez dit de désespoir, parce que pour moi, le désespoir, c'est justement de refuser de concevoir cette pluralité dans l'identité même de des personnes afropéennes. Par exemple, je pense notamment à Cécile Emeke, qui est donc une afropéenne, donc femme noire britannique, qui est venue en France filmer des femmes noires, justement, pour partager nos expériences. Donc, être afropéenne, c'est aussi une rencontre, c'est aussi ne pas se limiter aux limites géographiques, au choc culturel qui nous différencie, mais c'est justement finalement accepter de ne pas choisir d'avoir cette identité fragmentée avec son histoire. Et quand vous dites vous êtes Toulousain, bon, je suis très heureuse pour vous si vous avez la possibilité de vous définir par cet adjectif, mais moi je n'ai pas envie de choisir entre le fait d'être à la fois orléanaise, française, martiniquaise ou congolaise. Pour moi c'est un tout. Donc je pense aussi que l'afropéanité, c'est cette possibilité de laisser les personnes englober tout ce qui les constitue sans faire un choix.
Merci pour votre intervention, Jean, qui a permis à nos quatre invités de définir encore plus clairement ce concept qu'elle porte. Je vous propose, et belle journée à vous à Libreville, je vous propose qu'on revienne vers Paris, où une voisine, Marie, a elle aussi son idée de la question, et on ira assez rapidement puisque nous avons une voisine qui nous attend à Madrid. Bonjour Marie.
D'accord. Eh bien écoutez, bonjour. Bonjour mesdames.
Bonjour Marie.
Bonjour. Bonjour.
Je voulais simplement adresser un message positif par rapport à votre débat et à vos échanges.
Oui.
En disant tout et tout fort que je suis fière d'être française, je suis fière d'être marseillaise, je suis fière d'être d'origine africaine et je suis fière d'être européenne. Voilà.
C'est tout en même temps. Donc vous allez dans le sens de Mrs. Root, c'est pas ou, c'est et.
Non, c'est je suis tout, j'ai grandi en France, mes parents sont arrivés en France dans les années 60, donc j'ai toujours connu que la France, je connais peu l'Afrique, mais tous les éléments m'ont été transmis par mes parents et surtout par mon père, et j'ai remarqué que depuis que je suis arrivée en région parisienne, il y a un décalage au niveau des générations, puisque beaucoup d'immigrés sont arrivés en France dans les années 80 et ne raisonnent pas forcément de la même manière. Voilà.
Très
moi,
bien.
Je suis tout. Et parfois, eux sont sénégalais, ont du mal, sont pas forcément à l'aise avec leur identité. Bon, je pense que ça viendra avec le temps, mais en tout cas, pour des gens comme moi qui sont issus d'une immigration ancienne, bah, je suis tout et je suis fière d'être tout. Et quand on me demande d'où je viens, bah, je suis française, je suis marseillaise et je suis africaine. Voilà.
Eh bien, merci pour ce beau sourire et ce soleil dans votre voix, Marie. Belle journée à vous, Eva Doumbia.
Oui, je voulais remercier Marie et puis parler aussi d'effectivement, il y a un décalage générationnel entre ceux qui sont nés entre les années 60 et 80 et les années 80. C'est-à-dire que dans les banlieues, chez les jeunes, on entend beaucoup « moi, je suis pas française, je suis ci, je suis ça ». Mais c'est quelque chose qui leur est renvoyé sans cesse à la figure. C'est-à-dire que
oui, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on fait de vous ?
Justement. Bah c'est que je crois aussi qu'il faut, et je crois qu'on va en parler tout à l'heure, c'est que il faut nous envoyer nous dans les écoles, il faut nous envoyer nous parler aux gens, il faut nous écouter, écouter ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux.
Donc la mission des Afropéennes, Eva Doumbia, n'est pas tant d'agir en Afrique pour
c'est
vous,
les deux
qu'ici,
parce que afro-PN, on est aussi PN que afro. Et pour moi c'est très important aussi de faire ce travail en direction des banlieues et pour que des hommes politiques surgissent de ces territoires là et qu'en fait qu'on c'est à nous de le faire, parce que je crois que tant qu'on leur dira pas tu es français, eux ne se définiront pas comme français.
Cap sur l'Espagne avec Odom. Hola, qué tal, Odom?
Bonjour Anastasie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes gabonaise, Odom, et vous êtes mariée à un Espagnol.
Ah, exactement. Moi je suis gabonaise et ma fille elle est espagnole.
Qu'est-ce que c'est d'être africaine et d'élever une enfant européenne ou afropéenne? Qui est afropéenne, vous ou votre fille?
Je sais pas quoi vous dire. Moi ça me dérange pas qu'on me demande où je suis, parce que je n'ai aucun problème à affirmer mes origines, j'y vais très fréquemment. Je pense que le travail, c'est surtout au niveau de ma fille, parce qu'elle, quand on lui demande d'où elle est, elle dit qu'elle est de Valverde de Fresno, d'Extremadour. Donc, elle se considère absolument espagnole.
Oui.
Le problème, c'est au niveau de ses camarades.
C'est là où j'allais en venir. Comment la regardent-ils, eux?
Déjà qu'en Espagne, la couleur noire, c'est encore anecdotique. On vous regarde de façon curieuse. À l'école, c'est avec ses amis, lorsqu'on lui dit « mais tu n'es pas née ici, par exemple », elle dit « non, je suis née à Madrid ». Les petites pensent que c'est parce qu'elle est un peu, elle n'est pas aussi blanche que qu'elle serait d'ailleurs, en fait, voilà.
Mm-hmm. Et alors, comment vous gérez ça? Comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous lui transmettez? Qu'est-ce que vous lui répondez quand elle vous dit « on m'a encore dit que je ne venais pas, que je n'étais pas espagnole ».
Non, à vrai dire, elle ne me dit pas comment accorder. Il y a des questions que j'anticipe. Il y a des réponses que j'anticipe. Je lui dis, par exemple, tu n'acceptes pas qu'on te dise que tu n'es pas d'ici, par exemple. Tu n'acceptes pas qu'on te dise ce que d'autres veulent que tu sois, par exemple. Et pas que ce soit pris de façon problématique. Je veux qu'elle assimile qu'on peut être de partout et d'avoir une identité ancestralité multiple. Et qu'au contraire, c'est un plus et ce n'est pas un moins. Et quand ses amis lui disent « tu ne parles pas aussi bien espagnol que nous », je lui dis « non, ce n'est pas parce qu'on parle deux langues qu'on perd quelque chose. Au contraire, dis-leur que je parle bien espagnol et je parle aussi français ». Et lorsque sa maîtresse lui dit, et qu'elle me dit, elle est très intelligente, il faudrait lui mettre une troisième langue, il n'y a aucun problème. Et je lui dis, mais tu vois, que c'est un plus d'avoir plusieurs langues.
Donc ça demande quand même un accompagnement. Ce que vous nous dites, c'est que élever une enfant afropéenne ou un enfant afropéen demande un accompagnement particulier.
Absolument. Mais il faudrait toujours mettre en exergue les points positifs. En fait, par exemple, elle est la seule noire de son école à aller à avoir des tresses. Je lui fais des tresses et je lui dis, mais tu vois, quand tu vas à l'école le matin, les gens admirent, les copines regardent, elles viennent vers moi qui suis sa mère, me demandent si je peux leur faire la même chose. Et ce sont des points positifs, en fait, faire en sorte qu'il y ait de l'auto-estime, l'accompagner dans ça et ne pas faire en sorte qu'elle se demande, mais, est-ce que c'est un plus ou pas. C'est ma façon de faire, en fait, pour qu'elle... Ce sont absolument une partie de l'Espagne.
Merci beaucoup pour ce témoignage de maman d'Afropéenne au DOM. Et belle journée à vous à Madrid. Mrs. Ruth, vous vouliez réagir et Françoise Vergès, très rapidement.
Oui, parce que je pense qu'en fait, son témoignage est assez touchant puisque beaucoup d'Afropéennes, je pense, se reconnaîtront dedans dans le fait de devoir se construire, en fait, par rapport au regard des autres qui sont tentés de nous placer dans un endroit extérieur qui n'est pas la France et qui appartient à cette espèce d'étranger qui n'est jamais vraiment ici. Et on n'est finalement jamais assez quelque chose, assez française ou quoi.
Françoise Vergès.
Je pense, oui, c'est ce qui est très important là-dedans, c'est de montrer à quel point, en fait, toutes les personnes, nous, qui arrivons, on arrive pluriculturelles, plurilingues, dans des mondes totalement monolingues et monoculturels. Et cette monoculture et cette monolingue est présentée comme formidable. Alors qu'au contraire, et ce que dit cette femme est très important, parce que très souvent, quand les enfants bilingues et pluriculturels sont beaucoup plus vifs et beaucoup plus intelligents, ils restent beaucoup mieux à l'école. Ça, c'est une première chose. Et nous sommes confrontés à des pays où le monde de la culture, le monde de politique, le monde de l'université sont des mondes blancs. Enfin, blancs au sens dans la tête, peu m'importe la couleur, je veux dire, au sens de Fanon. Quoi, au sens de Fanon, qui est important. Et donc ça, je veux dire, cette question d'Afropéen, c'est de faire complètement transformer la vision de ces pays qui continuent à complètement à s'accrocher à quelque chose qui est une fiction désormais. C'est fini.
Merci beaucoup, Françoise Vergès. On se quitte sur le mot « c'est fini ». On va s'arrêter au mot « c'est fini ». Je vous propose maintenant, mesdames, d'écouter un reportage. Elle s'appelle Nasrin Abdallah. Elle a 36 ans et est commandante au sein de la principale force armée des Kurdes de Syrie. Avec d'autres combattants, hommes et femmes, elle a participé à la conquête de Kobané fin janvier. Après 4 mois de combat contre les djihadistes de Daesh, dans cette ville du nord de la Syrie où les Kurdes syriens rêve d'installer leur état, le Rojava. Charlie Dupio a rencontré cette combattante kurde de passage à Paris, uniforme kaki, cheveux bruns attachés. Elle a un regard déterminé. Écoutez.
Avant la révolution, j'étais journaliste et je militais pour les droits des femmes. Quand le peuple kurde a commencé à se soulever en Syrie en 2004, je me suis engagée, en politique d'abord, et puis quand les combats se sont intensifiés, je me suis engagée militairement, après avoir suivi une préparation au combat. Mon rôle était de diriger les combats à Kobané. Je faisais partie du bureau de coordination avec les autres groupes, les Peshmerga et la coalition internationale. Je suis aussi allée au front à Kobané. Je suis célibataire. J'ai mis ma vie privée de côté maintenant, car je suis engagée dans les combats. J'y consacre la totalité de mon temps. À Kobané, on était des milliers de femmes. Parmi les combattants, on était près de 40%.
Vous dirigez des hommes aussi, au combat. Comment est-ce qu'ils vivent le fait d'être dirigé par une femme ?
Je suis membre du conseil militaire, avec des camarades hommes. Être une femme et donner des ordres à des hommes ne pose aucun problème. J'ai toute ma place. Je suis bien respectée par eux. Et je me bats depuis plusieurs années pour que les femmes soient considérées comme les égales des hommes. Sur le front, mais aussi dans les autres domaines. Comme toutes les femmes combattantes, je veux défendre nos droits. Et je défends aussi la cause kurde. Si on n'épouse pas cette cause-là, il est impossible de passer une minute sur le front. C'est cette cause nationale, celle du Kurdistan syrien, le Rojava, qui nous pousse à combattre malgré toutes les difficultés que l'on rencontre.
Les combattants Daesh auraient peur d'être tués par des femmes ? Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Ils ont très peur de combattre des femmes. Ils sont persuadés que s'ils sont abattus par l'une d'entre nous, ils ne pourront pas accéder au paradis. Cette croyance est assez répandue chez eux. C'est pour cette raison qu'ils évitent parfois de combattre contre nous. Ils préfèrent combattre contre des hommes. D'ailleurs, le fait qu'un grand nombre de femmes participent à la guerre est un atout. Comme ça, elles peuvent tuer des combattants de Daesh et les empêcher d'aller au paradis.
Comment vous voyez les prochains mois, les prochaines années ?
On ne peut pas fixer de date ni de délai pour la suite des événements. Mais si on continue avec le même courage, le même entrain qu'au début, je suis optimiste sur nos chances de victoire. Et puis, avec toutes ces femmes combattantes qui participent activement à la guerre, nous sommes en train de définir la future position de la femme dans notre société. Que ce soit dans l'administration ou encore dans les institutions politiques de notre territoire, le Rojava, après la guerre.
Merci à Charlie Dupiot. Alors, la femme, le témoignage que nous venons d'entendre n'est pas celui d'une afro-péenne, mais il est quand même édifiant quant à ce qu'une femme peut faire et ce qu'une femme est capable de faire et d'avancer. Je me tourne vers nos afro-péennes. L'émission touche à sa fin. Eva Doumbia, afro-péenne, le spectacle que vous avez mis en scène au Carreau du Temple.
Il continue. En fait, Africa Paris, donc l'événement n'est pas tout à fait fini. Il y a eu un gros focus pendant le week-end passé, mais en vérité, il y a encore des choses qui se passent ce soir. Il y a un autre spectacle ce soir que j'ai mis en scène aussi avec des textes que j'ai écrits.
Et quelle heure
textes de... C'est à 20h30. Il y a des textes de moi, de Fabienne Canor et de Jamaica Kincaid. Demain, il y a Emariamou de Maimouna Koulibaly qui a un spectacle qui est pour moi le pendant de
biographie dansée.
C'est sa biographie dansée et c'est le pendant d'Afropéenne puisque c'est la même histoire qui est racontée dans les banlieues et c'était important de voir que cette notion elle traverse aussi les couches sociales. Et puis samedi à 20h30 et dimanche à 17h, il y a la reprise d'Afropéenne et ce sont les dernières dates annoncées.
Mrs. Roth.
Donc on organise une table ronde donc lundi soir à 19h dans le cadre de la semaine anticoloniale. Ce sera sur la parole des afrodescendantes, la confiscation, la réappropriation et le paternalisme autour. Et donc, ce sera dans la salle aux petits joueurs, donc dans le 19e.
Vaste sujet, Charlotte Gomis.
Alors moi, vous pouvez toujours me retrouver sur Canal+, mais je tenais à remercier les voisins et les voisines de nous avoir écoutés. C'est un thème qui me tenait vraiment à cœur. Merci de m'avoir invitée.
C'était un plaisir.
Voilà, et en ce moment, je travaille sur la sortie de ma marque de robe du soir qui s'appelle Promulias. Donc, restez connectés.
À suivre, peut-être qu'on vous retrouvera dans 7 milliards de voisins. Côté mode, Charlotte Gomis, Françoise Vergès, où est-ce qu'on vous retrouve?
Partout.
Oui, ici et là, vous voyagez beaucoup. Vous êtes à Londres, vous êtes aux États-Unis. Donc on vous suivra.
Oui. Non, c'est juste de dire que le débat est ouvert et qu'il faut continuer et qu'il faut surtout faire attention à toutes les créativités qui émergent.
Merci à vous toutes, mesdames. Merci les voisins pour votre attention. Cette émission, vous pouvez la réécouter. Le podcast est disponible sur la page 7 milliards du site de RFI. Demain vendredi, c'est un sujet éducation qui sera au cœur de nos échanges. L'apprentissage de la lecture, sujet fondamental. Si il en est, rendez-vous à demain et belle journée.